En novembre dernier, eurent lieu à Paris plusieurs attentats meurtriers, dont le plus important dans la salle du Bataclan. Il se trouve qu'une semaine après ces funestes événements, devait avoir lieu le Capitole du Libre. Nous avons déjà discuté sur cette antenne avec Emmanuel Elie et Lionel Porcheron du retournement devant la situation. Un des événements maintenus le vendredi 20 novembre 2015 était une table ronde à la médiathèque José Cabanis, modérée par votre radioteur actuellement au micro, et donc sous le titre « Surveillance numérique, nos libertés sont-elles menacées ?». Nous vous diffusons donc un enregistrement de la partie présentation avec Maître Stanley Kless, avocat du barreau de Toulouse, spécialisé dans le droit du numérique, et Stéphane Borsmeyer, ingénieur réseau que nous avions aussi reçu dans ce programme.
CPU, carré et petit utile.
Pourquoi et comment les libertés numériques concernent-elles tous les citoyens ? Quelles sont les limites entre liberté et sécurité ? Et au-delà du constat, comment agir au quotidien? C'était le programme tel qu'il a été tapé il y a 3 mois. Actuellement, ils ont une résonance très différente pour nous tous. Et nous nous rendons compte qu'un terme qui, en soi, est un petit peu geek, en fait, concerne n'importe qui d'entre nous, aussi bien en France, en Europe ou à travers le monde. Les intervenants originellement prévus se sont retrouvés pris dans la tourmente des suites politiques des tragiques événements de vendredi dernier. Ainsi, Adrienne Charmé-Alix, coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net, est actuellement dans le flot des lois et décrets qui passent en état d'extrême urgence actuellement devant le Parlement. Tristan Nitto, en tant que membre du Conseil national du numérique et activiste sur les libertés numériques, essaie lui aussi de contrebalancer le flot législatif expédié par l'exécutif pour étendre le judiciaire. Rien qu'à dire cette phrase, je pense que Montesquieu ne va pas arrêter de se retourner dans sa tombe. D'après un sondage IFOP publié mardi par Le Figaro et RTL, 84% des personnes interrogées, pour mieux garantir leur sécurité, sont prêtes à accepter davantage de contrôle et une certaine limitation de leur liberté. Alors 84%, je retire à 100%, je rajoute à TVA et tout ça, ça fait 16% de sympathisants pro-terroristes, si je calcule bien. 2 jours auparavant, le site leparisien.fr questionnait ses lecteurs. Pensez-vous que la loi renseignement est suffisante ? Sur 13 000 votants exprimés qui sont allés volontairement sur le site internet, plus de 85% de non. Faisons une expérience. Alors je vais vous demander de lever la main ceux qui estiment que cette loi n'en fait pas assez et que nous méritons plus de surveillance globale de tous les Français.
Franchement, c'est fini.
Alors soit vous êtes sincère, soit vous estimez qu'elle n'est effectivement pas assez, mais comme cette conférence est filmée et que vous devez exprimer une opinion contre la majorité et vous ne connaissez pas forcément qui sont autour de vous, et peut-être qu'après tout ils travaillent pour une société qui s'appelle Stasi.de, et ben vous modifiez votre sincérité. La surveillance globale sur Internet, c'est exactement ça. Cette autocensure globale que l'on appelle un état de démocrature. Vous modifiez votre opinion parce que vous savez que vous êtes surveillé et vous ne savez pas si à un moment ou à un autre, tout ce que vous pourrez dire, même dans un cadre privé, ne va pas se retourner contre vous. Et dans quelles circonstances, publiques ou privées d'ailleurs. Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Benjamin Franklin, 1755. J'ai vérifié.
Ils finissent généralement par perdre les deux.
Il faudrait que tu parles dans le micro pour que ça soit enregistré, Stanley.
Pas l'habitude des micros.
T'as pas l'habitude des micros.
J'aime bien brailler dans les salles d'audience, en fait.
Je me disais. Sans micro. Alors, écoute-t-on encore les spécialistes de la technologie lors d'une dérive sécuritaire, alors que les objets connectés à Internet sont au plus près de nous? Mais surtout, quand la plupart de ces spécialistes ont déjà vu les dégâts d'une surveillance globale dans des pays beaucoup moins ouverts que le nôtre. Nous allons beaucoup parler de l'article 11 de l'état d'urgence, de la loi d'état d'urgence, excusez-moi, sur les perquisitions, y compris sur système informatique, mais aussi de la possibilité de censurer les sites internet et les réseaux sociaux. Stéphane Borsmeyer, ingénieur en recherche et développement sur les réseaux informatiques, blogueur spécialisé en infrastructure sur Internet, et donc là pour parler du volet technique. Maître Stanley Kless, avocat au barreau de Toulouse, spécialisé dans les questions du numérique, membre de l'Association française des correspondants aux données personnelles, est là pour être le côté bavard au sens des pas perdus, bien sûr. Je vais demander à Stanley, justement, peut-être de commencer sur l'impact sur les citoyens, justement, des derniers changements.
L'impact est encore difficilement mesurable. Moi, je ne me suis pas encore complètement réveillé de la gueule de bois du week-end dernier et des conséquences qui s'en suivent aujourd'hui. Je les découvre avec vous minute après minute dans la presse. Je constate les mesures qui sont prises. Leur caractère attentatoire aux libertés, ça c'est une évidence, c'est leur objectif premier. Et j'essaie de percevoir quelles vont être les conséquences pour le quotidien des citoyens, mais aussi pour le quotidien des défenseurs, des avocats, des parlementaires, etc. Et le fait est qu'on peut être résolument inquiet. Alors c'est vrai que cette loi a vocation à durer peu de temps, 3 mois, c'est quand même long, 3 mois. Est-ce qu'elle sera reconduite ou pas ? Ça c'est une inconnue aussi, elle pourrait l'être de la même manière. Mais on voit un certain nombre de mesures gravement attentatoires aux libertés traditionnelles, c'est-à-dire prises sans aucun contrôle d'un juge. Je rappelle qu'en France, on a une constitution qui est le corpus de règles au-dessus de tous les autres et qui va fixer un cadre général, un certain nombre de libertés fondamentales auxquelles les lois et le législateur ne peuvent pas porter atteinte. Et là, ce qu'on est en train de nous expliquer en ce moment, ce que nous expliquent nos parlementaires, c'est que puisque la Constitution ne permet pas de modifier la loi, bah, modifions la Constitution. C'est quand même beaucoup plus rapide et efficace. Et quand on arrive à un moment donné où on modifie la Constitution, c'est quand même le texte le plus protecteur de notre pays, celui qui évite que des lois liberticides puissent être votées parce qu'elles vont être considérées normalement comme attentatoires à la Constitution. Et là, on nous explique, bah, puisqu'on veut voter des lois qui limitent les libertés, puisque ça porte atteinte à la Constitution, changeons la Constitution. Changeons la Constitution d'une part et changeons-la en plus en urgence. Et ça me pose un vrai problème parce que jusqu'à présent, toutes les fois où on a eu l'occasion de toucher la Constitution, c'était avec des pincettes, c'était en prenant soin d'essayer de se projeter, d'essayer de voir quelles seraient les conséquences sur le long terme des choix qui seront faits. Et là, en urgence, on nous dit on jette tout et on prévoit en réalité une loi d'exception, une règle d'exception qui devient presque la norme en fait, en tout cas qui va s'appliquer pendant plusieurs mois. Donc danger pour moi.
Monsieur Bortzmeyer, pardon, excuse-moi. En tant qu'informaticien et surtout connaissant le nœud du problème, c'est-à-dire Internet, là où tout se passe, qu'est-ce qui fait que les politiques ont tellement envie de réguler et qu'est-ce qu'ils ont envie de passer en quatrième vitesse, même des fois contre l'avis de leur propre service de police ?
Pour la partie concernant l'expression des gens, puisque Internet, c'est avant tout un formidable vecteur d'expression et de communication, c'est pas vraiment nouveau. La tradition en général, au moins en France, c'est qu'on laisse libre les médias du passé qui sont plus trop utilisés et que les médias qui sont réellement utilisés beaucoup par les gens sont plus contrôlés. Dans les années...
C'est d'ailleurs dans la loi d'état d'urgence, l'État a le droit de censurer la presse, la radio et la télé. Ça, ils le font supprimer. Par contre, ils rétablissent sa censure sur Internet.
C'était le cas simplement déjà dans les années 60, où la presse papier, qui était à l'époque déjà sur le déclin, était libre, et où par contre la télévision était contrôlée de manière qui semble aujourd'hui caricaturale. Aujourd'hui, la télévision est libre, mais on contrôle Internet. Donc ça, c'est une tendance classique de l'État, qui souvent n'a même pas besoin vraiment de justification. Des fois, j'ai entendu dans des réunions des discours du genre « on ne peut quand même pas laisser les gens dire n'importe quoi sur Internet ». C'est la définition même de la liberté d'expression, mais bon, apparemment, tout le monde n'en a pas la même définition. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, expression. Après, il y a la partie protection de la vie privée. Et là, il y a un truc qui est très important de rappeler, c'est que le déploiement des outils de communication numérique, et notamment Internet, s'est traduit par une perte colossale de la vie privée. On avait, il y a seulement 30 ans, la possibilité de faire un certain nombre de choses de manière réellement privée. On pouvait acheter un livre, on pouvait parler avec des gens, on pouvait consulter un journal. Et aujourd'hui, toute action laisse une trace. C'est un truc que les gens qui ne sont pas informaticiens oublient souvent. Mais comme aujourd'hui, notre vie politique, professionnelle, personnelle, les relations amoureuses, tout passe par le biais d'outils de communication numérique et notamment par Internet. Chaque action, chaque clic laisse une trace. Chaque opération qu'on fait laisse une trace. Il y a eu des gens qui ont prétendu qu'avec certaines mesures de sécurité qu'on déploie maintenant, la police est devenue aveugle, ne peut plus écouter les communications. Rien n'est plus faux. La réalité, c'est au contraire qu'on a un moyen maintenant d'intercepter les actions, les communication des gens qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire l'État le plus dictatorial il y a 40 ans était limité par les mesures physiques. Il fallait suivre des gens dans la rue, ça nécessite du personnel. Il fallait écouter des gens, écouter leur communication téléphonique et l'enregistrer. Il fallait du personnel, des moyens, des bandes magnétiques, tout ce qu'on voit dans le film La vie des autres. Et ce que permet l'informatique, et dont la plupart des gens ne sont pas encore conscients, c'est d'avoir la même activité, mais avec quasiment pas de limite physique.
Pour en revenir à l'un des fantasmes actuellement des hommes politiques, qui est d'essayer de trouver les signaux faibles du terrorisme, est-ce que, en SWAT, c'est une preuve qui serait recevable devant un juge avant justement les attentats, et est-ce que maintenant c'est quelque chose, les simples soupçons, sans même la moindre ombre d'une preuve, pourrait permettre d'emprisonner quelqu'un?
En l'état actuel, avec cet état d'urgence décrété, effectivement, on se retrouve avec un système inconnu pour nous, puisque la dernière fois que ça s'est produit remonte un certain nombre d'années quand même. Et on a un petit peu de mal à anticiper la manière dont ça va être effectivement exécuté. Le fait est qu'aujourd'hui, on peut effectivement, la police peut effectivement perquisitionner avec une autorisation minime, va pouvoir arrêter les gens et les détenir, les placer en garde à vue.
C'est pas vrai, ils l'ont fait.
Non, mais là, voilà,
c'est pour des affaires de droit commun. Déjà, ils ont fait quelques descentes dès dimanche.
C'est objectivement inespéré. C'est évident que c'est quand même beaucoup plus simple si tout d'un coup on peut se passer de la paperasse administrative auquel sont soumis les enquêteurs généralement. Là, tout d'un coup, ils n'ont plus besoin de faire des papiers, plus besoin d'autorisation du juge, plus besoin de justifier autant qu'ils devaient le faire avant. Chef, on doit y aller. Chef, ok, allez-y, pas de problème, vous pouvez rentrer, prendre ce que vous voulez, arrêter qui vous voulez et les détenir pendant un temps donné. Donc, non, il y a un réel danger sur cette loi-là, et surtout l'absence de contre-pouvoir, encore une fois, puisque, que ça soit avec la loi sur le renseignement dont on était supposé parler aujourd'hui au départ, on va dériver, c'est évident, et également avec cette loi qui vient d'être votée, on se retrouve dans un système d'exception, c'est-à-dire que tout le cadre traditionnel qu'on connaît, où la police a le droit de m'arrêter, mais j'ai des garanties, on peut perquisitionner mon domicile, mais seulement entre telle heure et telle heure, seulement avec un témoin. On peut fouiller mon véhicule, mais avec la possibilité d'exercer des recours, de faire appel, de contester une mise en examen, de contester une condamnation. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve, que ce soit, et c'est là qu'on se rejoint avec cette loi sur le renseignement ou avec cette loi sur l'état d'urgence, dans un système où le droit tel qu'on le connaît n'existe plus. Donc tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on savait en termes de protection, je suis arrêté dans la rue, je suis placé en garde à vue, j'ai droit depuis peu à un avocat, je suis, etc., tout ça disparaît. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un arbitraire. Donc cet arbitraire nous est justifié par les risques et les menaces qu'on a connues, et c'est plus que des menaces. Mais, encore une fois, le juriste que je suis a beaucoup de mal à réagir et à anticiper les conséquences, puisque on sort du domaine du droit tel qu'on le connaît. C'était le cas de la loi renseignement. Encore une fois, ce n'est pas une loi qui concerne les perquisitions ou les écoutes réalisées par les policiers. Ce n'était pas le propos de la loi. Les écoutes réalisées par la police, traditionnellement, les écoutes ordonnées par un juge, n'étaient pas du tout concernées par la loi sur le renseignement. C'est un autre pan du droit, ce n'est pas la justice, c'est ce que font les services de renseignement sans être tenus d'en rendre compte à qui que ce soit, c'est-à-dire pas plus aux députés et aux sénateurs, qu'aux citoyens. Ils sont simplement tenus d'en répondre devant le Premier ministre, point. Et là, on en revient un petit peu à la même chose avec une loi dont les acteurs ou les gens qui vont l'utiliser n'auront de compte à rendre qu'à très peu de personnes qui vont se retrouver à concentrer énormément de pouvoir entre leurs mains. Et donc, on sait tous qu'à partir du moment où on donne des pouvoirs étendus à une personne, que ce soit un policier de base ou que ce soit au président de la République, il y a un risque potentiel qu'ils en abusent et donc, pour cette raison-là, il faut des garde-fous, il faut des contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, je cherche vainement ces contre-pouvoirs, et à partir du moment où je ne les vois plus, je suis légitimement inquiet.
On a parlé de la loi renseignement. En fait, c'est une loi qui institue l'écoute globale sur Internet. Il y a des gens qui utilisent le chiffrement, mais ce chiffrement existait déjà avant cette loi. En fait, quelles sont les missions du chiffrement ?
Alors, le chiffrement des communications, ou d'ailleurs d'une machine même qui ne communique pas, c'est utiliser un ensemble de techniques mathématiques qui permettent de transformer un message normalement clair et compréhensible en une série de chiffres incompréhensibles pour quiconque ne possède pas la clé. Donc ça dépend d'un secret que, si on est le seul à connaître, on est protégé. C'est... Le point important, c'est que le chiffrement a des fois été présenté comme un moyen de gagner en vie privée par rapport à ce qu'on avait avant. Mais ce n'est pas une bonne présentation. J'avais dit, le déploiement des outils de communication numérique fait qu'on a considérablement perdu en vie privée. Des opérations qui étaient banales avant ne le sont plus. Par exemple, simplement acheter un journal et le lire. Avant, on pouvait le faire de manière complètement anonyme. On va dans un kiosque, on achète le journal avec de l'argent liquide. C'était anonyme. Et le passage à « on lit le journal en ligne » fait que ce qui était anonyme devient, au contraire, traçable, enregistrable par des tas de gens. Pas seul par le propriétaire du site web du journal, par le fournisseur d'accès Internet, par l'État, par plusieurs acteurs intermédiaires comme les régies de publicité. Donc le chiffrement ne vise pas à nous donner une vie privée supplémentaire ou à augmenter l'anonymat. Il vise à rétablir partiellement ce qu'on avait avant en matière d'anonymat et de vie privée. Et ça, c'est le point important, parce qu'il y a pas mal de gens... pour l'instant, j'ai été surpris, mais dans le délire législatif qui a suivi les attentats de vendredi, il n'y a pas eu de mesures directement visant le chiffrement. Par contre, il y a tout un discours tenu par des autorités, donc comme le procureur à Paris en l'été dernier, ou comme d'autres personnes depuis les attentats, le directeur du FBI, par exemple, récemment. Il y a tout un discours diabolisant le chiffrement, expliquant que si on utilise le chiffrement, on est un terroriste, en gros, ou complice des terroristes. Et il est donc probable que le prochain attentat, parce que hélas, il y a peu de chances que Daesh s'arrête là, donc il y aura sans doute malheureusement encore d'autres attentats, et il est probable que le prochain attentat sera utilisé pour des mesures limitant le chiffrement. Alors, quelles sont les mesures en question ? C'est, quand je l'ai expliqué au début, le chiffrement, ça avait l'air d'être binaire. Soit le message est en clair et tout le monde peut le lire. C'est un point important que je rappelle pour les gens qui ne sont pas informaticiens. Quand on ne chiffre pas les messages, tout le monde peut le lire. Vous utilisez un téléphone portable pour communiquer. C'est des ondes radio qui sont diffusées partout et que n'importe qui peut, avec un matériel qui est aujourd'hui assez bon marché, intercepter et écouter. S'il n'y a pas de chiffrement, c'est exactement comme si toutes vos conversations étaient faites à voix haute dans un lieu public en criant très fort. Donc le chiffrement limite ça, mais le chiffrement présente un certain nombre de limites. C'est pas une solution parfaite à tous les problèmes. Et donc quand certaines personnes dans les autorités prétendent qu'avec le chiffrement, la police devient aveugle, ça n'est pas vrai. Parce que le chiffrement nécessite tout un tas de précautions qui ne sont pas forcément prises par tous les utilisateurs. Un exemple typique, vous utilisez Gmail pour communiquer. La communication entre votre ordinateur et Gmail est chiffrée, donc un tiers sur le trajet ne peut pas écouter, mais à l'autre bout, c'est déchiffré et Google a l'intégralité de la communication. Donc, idem si vous, au lieu d'utiliser Google, vous utilisez un autre service. Donc, le chiffrement n'est pas une arme absolue. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est nécessaire de continuer à utiliser le chiffrement, à le perfectionner, à l'utiliser mieux. Mais c'est aussi pour ça qu'il est tout à fait faux de prétendre que le chiffrement empêche toute enquête. Je le répète, avant le développement des outils de communication numérique, tout un tas d'actions étaient anonymes et privées, elles ne le sont plus. Et pourtant, dans les années 50, les policiers enquêtaient déjà et résolvaient déjà les énigmes. Donc le chiffrement n'est pas une arme absolue, mais sans lui, on est complètement ouvert, tout est public, rien n'est privé, et tout ce que vous faites peut être connu par beaucoup de gens. C'est un point important, et on ne le répétera jamais assez, la personne qui est chez lui, devant son ordinateur, en train de s'exprimer sur un forum, par exemple, peut croire que c'est privé parce qu'il est chez lui, parce qu'il est tout seul chez lui, parce que personne n'écoute, mais en fait, de nombreux acteurs de l'Internet ont accès à tout ou partie de ses communications et peuvent en déduire plein de choses sur ce qu'il fait. C'est un point qu'on ne répétera jamais assez. Le chiffrement ne vise pas donc à apporter un nouvel anonymat qu'on n'avait pas, il vise à compenser partiellement la perte d'anonymat qui est le résultat du déploiement des technologies numériques.
Maître Claes, vous êtes surtout dans le droit des affaires, si je ne me trompe.
Oui, numérique au sens large.
Voilà. D'une manière étonnante, etc. Le chiffrement est quand même la conclusion normale quand on est chef d'entreprise et que l'on doit tout simplement respecter les obligations de la CNIL sur la gestion en fait, de la vie privée de ses clients.
Alors, en théorie, oui. En théorie, oui, notamment sur les questions de données personnelles, la loi informatique et liberté de 1978, qu'on connaît tous, impose une sécurité des données qui sont traitées par les différents opérateurs, qui sont responsables des données qu'ils traitent. Donc on pourrait supposer qu'il va y avoir une sécurité, que les grosses entreprises vont avoir des salles fermées à clé à minima, et puis des codes d'accès, et puis différents niveaux de protection technique. Mon expérience montre que ce n'est pas le cas, que les entreprises ne prennent pas suffisamment en compte la sécurité, ne sécurisent que très peu, ne sécurisent pas les boîtes mail, sécurisent assez peu leurs fichiers. Bah, j'ai régulièrement des employeurs qui m'appellent en me disant « le commercial est parti avec le fichier client, comment je fais ?» Non, mais c'est extrêmement fréquent, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et globalement, la préoccupation première des entreprises, c'est déjà que ça marche. Si ça marche, c'est bien, on ne va pas compliquer en plus en rajoutant le chiffrement. Donc souvent, c'est assez maltraité et j'ai longtemps, je ne vais pas prêcher dans le désert, mais je m'intéresse aux données personnelles depuis longtemps et je dois dire qu'avant Snowden et l'affaire Prism, on nous disait « mais vous êtes parano », maintenant on nous prend un peu plus au sérieux. C'est devenu intéressant, on pouvait commencer à en parler et avoir une prise de conscience réelle. Malheureusement, depuis quelques jours maintenant, quand on commence à dire que les contrôles sur les communications et autres sont attentatoires aux libertés, on se retrouve avec des gens qui vous expliquent qu'ils n'ont rien à cacher. Moi-même, ce matin, je me suis retrouvé à discuter avec ma collaboratrice, qui est avocate aussi, qui est sensible aux libertés fondamentales, etc., mais qui, dans le feu des événements passés et des attentats, me disait « mais moi, j'ai rien à cacher, s'ils veulent perquisitionner chez moi, qu'ils viennent, moi, je n'abrite pas de terroristes, allons-y ». Or, il y a un vrai danger à ce niveau-là. Je vais vous dire des évidences, mais il faut les rappeler quand même. C'est qu'à un moment donné, les systèmes de surveillance informatique fonctionnent sur des logiques de mots-clés. C'est comme ça qu'ils les ont mis en œuvre. Un mot-clé, il est décidé par le pouvoir en place et il peut changer. Il ne faut pas quand même oublier que tous les gouvernements totalitaires sont toujours arrivés au pouvoir par les urnes. Aujourd'hui, on a un gouvernement a priori démocratique. Demain, on peut avoir une Marine Le Pen au pouvoir. Je ne suis pas certain que ça reste aussi démocratique ou pas. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses clairement quand même. Et donc à partir du moment où, encore une fois, l'avenir n'est pas écrit, qu'on peut se retrouver avec un gouvernement totalitaire au pouvoir, demain c'est une question de mots-clés. Aujourd'hui, si vous me dites « je vais filtrer djihadistes sur Internet », bon, si c'est pour retrouver des djihadistes convaincus, c'est difficile de s'y opposer. Le problème avait commencé plus tôt, quand on disait « on va lutter contre les pédophiles ». Personne ne peut dire « je suis pour les pédophiles », de la même manière que personne ne peut dire « je suis pour les djihadistes ». Donc on va mettre en place des outils de contrôle, de surveillance, et on nous explique au départ que c'est pour lutter contre la pédopornographie. Maintenant, on nous explique que c'est pour lutter contre les terrorismes. Ce qui est vrai, et c'est effectivement très bien, mais le problème, c'est que ces outils peuvent être détournés demain, et demain, on peut rajouter révolte, manifestation, appel à la désobéissance civile, barrage Sirven, et que sais-je encore, pour arriver à contrôler en temps réel ce que font les citoyens dans un pays, ou en tout cas prétendre et croire le contrôler. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais revenir, moi qui me surprend un petit peu. Je ne suis pas expert en sécurité informatique, donc je parle sous contrôle, mais on nous dit aujourd'hui, les chiffres sortent, qu'il y aurait à peu près 11 000 personnes qui font l'objet d'une fiche S en France, donc qui devraient être davantage surveillées. Le renseignement.
On explique, une fiche S, c'est quelqu'un qui est fiché aux renseignements généraux et sur lequel on n'a pas de preuves, c'est juste des soupçons. Mais en général, des soupçons suffisamment sérieux pour qu'on surveille la personne.
Donc a priori, 11 000...
Défavorablement connu des services de police.
Il y a plusieurs catégories de fiches S. Donc sur 60 millions d'habitants, 11 000 personnes qui font l'objet d'une fiche S, donc qui sont a priori à surveiller ou dont on pourrait penser qu'il faudrait peut-être surveiller spécifiquement leurs communications, leurs échanges. Les services de renseignement nous disent qu'actuellement, ils sont supposés suivre à peu près 2 000 personnes identifiées comme vraiment dangereuses. On se rend compte qu'ils ont été extrêmement rapides à les retrouver après les attentats, et j'en suis le premier satisfait. On s'aperçoit également qu'en tout cas, ils n'étaient pas dans les radars du renseignement avant ces attentats-là, malgré le fait qu'ils étaient dans les 2 000 ou dans les 11 000 à surveiller. Et donc que les services de renseignement français, étrangers, se sont révélés incapables de surveiller et d'extraire cette donnée permettant de voir qu'il y avait un danger sur ces personnes-là. Et dans le même temps, avec la loi sur le renseignement, on nous dit qu'on va surveiller en temps réel les communications et les échanges sur Internet de 60 millions de personnes. Ça me paraît assez difficile techniquement, et ça me paraît un petit peu dangereux. Pour une raison purement mathématique, j'étais tombé sur un article, Le Monde ou Mediapart, je ne sais plus, qui faisait un calcul assez simple... en disant, bon, admettons, je vous lis le paragraphe, admettons qu'il existe un super algorithme qui fonctionne vraiment très très bien et qui donne le bon résultat dans 99,5% des cas. Donc déjà, un algo qui fonctionne à 99,5% des cas, ça n'existe pas.
Vous le voyez là, le sourire que pense Fayard et moi ?
Admettons. Bon, imaginons que sur 65 millions de Français, il y ait 1000 terroristes. L'algorithme va détecter 1000 fois 99,5%, donc il va détecter à peu près 995 terroristes sur 1000. Donc bon, c'est un résultat intéressant. Il y en a quelques-uns qui vont passer entre les mailles du filet, mais on va en trouver l'essentiel. Mais si on surveille 65 millions de personnes, il y a aussi 65 millions moins 1000 fois 0,5%, ça veut dire qu'on va avoir 324 995 faux positifs. Et bien sûr, pour chaque détection d'un faux positif, il faudra nécessairement mener des investigations, engager des moyens d'enquête, mettre des enquêteurs sur le coup, et donc des moyens humains, des moyens financiers, pour être certain que ce mot-clé qui a été détecté, que cette détection correspond effectivement à un terroriste en puissance, et donc faire sonner des alarmes et faire une surveillance plus poussée. Donc ça veut dire que le risque de faux positifs est complètement délirant par rapport à l'objectif poursuivi. Donc il faut regarder ces chiffres-là et essayer de voir quelle a été la volonté du législateur. Et on se rend compte que le législateur, dès qu'il parle de technique, est souvent largué. On l'avait déjà vu à l'époque de l'Hadopi, c'est à cette époque-là qu'était née la quadrature du net, qui avait mis en évidence des contradictions, mais patentes, entre les déclarations, c'était Albanel à l'époque, et la réalité technique. Et là, on continue en nous disant, mais il n'y a pas de problème, on va pouvoir ressortir des mots-clés de manière précise. Et puis, à l'époque de l'adoption de la loi, pour assurer, on nous a dit, rassurez-vous, les données seront anonymisées. Alors ça, j'ai jamais bien compris, parce que forcément, si je scanne et je scrute en temps réel le réseau Internet, forcément, c'est pas de données anonymisées. Et on me dit après, mais vous en faites pas, elles seront après stockées de manière anonymisée. Or, aujourd'hui, techniquement, scientifiquement, on ne sait pas anonymiser, ou en tout cas extrêmement difficilement. Anonymiser, ça veut dire garantir que on ne va pas pouvoir faire l'opération inverse. Ce n'est pas juste enlever les données nominatives. Ça, c'est facile. J'enlève la moitié des informations. Mais c'est garantir que par rapport au numéro que j'ai mis sur la fiche, je ne vais pas pouvoir, à un moment donné, faire l'opération inverse qui va me permettre de retrouver l'ensemble de la fiche d'une personne. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et les plus grands techniciens en matière informatique butent souvent sur cette question-là. Et là, l'État nous dit « pas de problème, nous, on sait faire ». De la même manière que l'État nous disait à une époque, pas de problème, on va sécuriser les connexions Internet de l'ensemble de la population. Apple n'y arrive pas, Sony n'y arrive pas, mais Madame Michu, elle, va y arriver très très bien, sans aucun doute. Et il y avait les mêmes naïvetés qu'on retrouvait. Je fais des comparaisons parce qu'on retrouve les mêmes à peu près. Sur la Dopi, on nous disait, mais vous en faites pas, on va lancer un appel d'offres pour obtenir une solution qui vous permette de sécuriser votre modem, votre box Internet. Crédulité de législateur. Bien évidemment, il n'y a pas une entreprise qui a imaginé répondre à cet appel d'offres, pour la simple et bonne raison qu'une entreprise qui dirait « moi, je vais sécuriser les connexions Internet de 60 millions de Français » va se faire hacker sa solution avant même qu'elle soit sortie. Dans la seconde. C'est une telle cible, c'est comme le nez au milieu de la figure.
Si même les banques n'y arrivent pas...
Si les banques n'y arrivent pas, si Apple n'y arrive pas, etc., on me dit que moi, je vais y arriver tout seul dans mon coin. Naïveté de législateur. Et là, on en revient avec les mêmes errements techniques, avec les mêmes approximations techniques, en nous disant, rassurez-vous, braves gens, les algorithmes tournent, on vous protège. Et on ne s'est pas anonymisé, mais on a décrété qu'on savait. C'est le pouvoir, je dis, le pouvoir du législateur qui peut décréter qu'il sait faire des choses que personne d'autre ne sait faire. Donc on retrouve comme ça tout un tas d'incohérences et techniques et derrière juridiques, dont notamment les moyens, je ne vais pas rentrer dans le détail précis, mais dans les contre-pouvoirs qui existent au niveau de la loi renseignement et qui posent réellement problème, puisque même l'État n'écoute pas ses propres scientifiques, n'écoute pas ses propres services sur ces aspects techniques.
Je voudrais profiter qu'on ait quelqu'un qui est vraiment au nœud de ce qu'est Internet en France. Combien ça coûterait d'intercepter tout le contenu de ce qui s'échange entre les Français? Est-ce que tu en as une idée?
Je vais faire un devis là. Ça dépend. C'est pas si dur que ça, justement, dans la mesure où ça ne nécessite pas de percée théorique fondamentale. On me donne un budget, je le fais, et j'ai même pas l'impression que ça soit si coûteux que ça. C'est pas effectivement un truc que je peux faire avec mes moyens perso, mais pour un État, c'est aujourd'hui possible. La NSA le fait, et donc d'autres. La NSA aux États-Unis, l'agence d'espionnage aux États-Unis le fait, et y compris pour d'autres pays que le leur.
Seulement pour d'autres pays que le leur, théoriquement pas chez eux.
En théorie, mais j'ai du mal à y croire. Mais donc d'autres pays peuvent le faire aussi. Ça nécessite des moyens, c'est pas facile, mais les moyens sont en augmentation rapide. La vraie difficulté, qu'est-ce qu'on fait après de ces données? C'est-à-dire, ce qui est facile, c'est de récolter des données. Ça, les ordinateurs sont très forts pour ça. Ils peuvent copier des quantités énormes de données toute la journée sans jamais se lasser, sans jamais s'arrêter. C'est la force d'ordinateur. Après, quand on parle de traitement d'information, on a au plus bas niveau les données, c'est-à-dire les 0 et les 1 qui circulent sur le câble et qui peuvent être copiées très facilement. C'est un point important du numérique, il n'y a aucun moyen de s'apercevoir que ça n'a pas été copié. Une enveloppe papier, quand on l'ouvrait à la vapeur, qu'on la refermait, même ça, ça laissait des traces. Avec le numérique, on peut copier sans laisser aucune trace. Après, une fois qu'on a les données, il faut en extraire de l'information. L'information, c'est par exemple, Alice avait rendez-vous avec Bob à 16h, ou Charlie a mis un article sur son blog en ligne. Ça, c'est déjà beaucoup plus dur. C'est un travail de traitement qui est déjà plus difficile. Et puis après, il n'y a pas d'information, il y a la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Alice et Bob avaient rendez-vous à 16h. Ok, très bien. Mais pour faire quoi? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir s'ils préparent un attentat et quand. Et ça, c'est une opération beaucoup plus difficile et qu'effectivement, aucun algorithme ne peut faire. On échoue. Et c'est d'ailleurs pour ça que, bien que la loi sur le renseignement ait été votée des mois avant les attentats du vendredi 13, ça n'a rien empêché, ou les mesures extrêmes de la NSA aux États-Unis n'ont pas empêché les attentats du marathon de Boston, parce que récolter des données, c'est facile, les transformer en information, c'est déjà plus dur, mais après, comprendre ce qui se passe, c'est beaucoup plus dur, et là, c'est forcément encore, pour sans doute encore longtemps, un traitement humain. Et là, ce traitement humain, c'est souvent celui qui défaille, parce qu'un point qui a été rarement cité dans le débat sur les mesures qui ont été prises depuis vendredi, c'est souvent le débat était caricatural. Il y a les gens qui veulent de la liberté et qui ne sont pas prêts à la sacrifier, et puis ceux qui veulent de la sécurité et qui sont prêts à sacrifier un peu de liberté. Mais il y a des éléments importants du débat qui sont complètement passés à la trappe. Par exemple, c'est simplement la bête, vulgaire question des moyens financiers. Quand vous parlez à des policiers qui font des enquêtes, c'est rare qu'ils demandent une réforme de la Constitution. En général, ils disent « Ah ben ça serait bien si on pouvait avoir au commissariat les voitures qu'on nous a promis depuis 6 mois et qu'on n'a toujours pas. » Ou si on pouvait avoir enfin des ordinateurs un peu plus modernes pour faire notre travail.
Je peux t'interrompre sur ce point-là pour une info précise transmise par les brigades de cybersécurité. J'avais fait des interventions avec eux, etc. On avait discuté. Ils traitent à peu près 40% des plaintes qu'ils reçoivent. 40% des plaintes qu'ils reçoivent, pour plusieurs raisons. La première, pour les raisons financières, c'est-à-dire que quand ils doivent, par exemple, enquêter, demander des informations à Orange, Orange va leur facturer 300 euros la transmission des informations. Et ils n'ont pas le budget. Donc comme ils n'ont pas le budget, s'il n'y a pas un préjudice important, tout simplement, ils ne traitent pas.
Et donc, à cause de ces difficultés de traitement, c'est là plutôt où On a lu des articles après du genre « Mais comment se fait-il que machin qui était connu comme dangereux n'ait pas été suivi ?» Ben, simplement par ce manque de moyens. Mais évidemment, pour un ministre, c'est beaucoup plus facile de faire voter une loi, surtout suite à un attentat dans l'émotion, que de dégager des moyens pour le travail concret des enquêteurs sur le terrain. Donc pourquoi est-ce qu'il y a autant d'efforts qui sont donc faits pour intercepter ces quantités de données alors qu'on sait très bien qu'on ne pourra en transformer qu'une partie en information et qu'une partie de la partie en compréhension, ben c'est parce que ce genre de surveillance massive, c'est très peu efficace contre des djihadistes c'est très peu efficace contre des ennemis compétents qui font attention et qui prennent des précautions. Par contre, ça marche très bien contre des citoyens ordinaires qui ne prêtent pas de précautions. On parlait des entreprises tout à l'heure, mais c'est encore plus vrai pour le citoyen ordinaire. Le citoyen ordinaire ne prend pas de mesures particulières de protection, d'autant plus que ces mesures de protection sont souvent diabolisées. On parle d'un dark web dans lequel se comploterait Dieu sait quel crime. Donc le citoyen moyen est complètement transparent. Et lui, passer de ces données à l'information et à la compréhension, c'est beaucoup plus facile. Donc la surveillance massive est très inefficace contre des ennemis déterminés. Et ça a été largement prouvé aux États-Unis, où la surveillance massive est déployée depuis même bien avant les attentats de 2001, mais encore plus depuis, et ça n'a rien empêché. Par contre, elle est très efficace si on veut surveiller la population, si on veut savoir ce qui se passe, si on veut savoir qu'est-ce que préparent les opposants à la construction de tel aéroport, ce genre de choses.
Est-ce qu'on a une chance peut-être d'arrêter les scandaleuses manifestations dangereuses de taxis ou d'agriculteurs avec
Là, c'est beaucoup plus efficace, oui, pour le coup, c'est radical, effectivement. Quoi. C'est,
et tu crois qu'ils vont le faire ?
Là, tout de suite, peut-être pas le sujet de la semaine, mais...
Qu'est-ce que... supposons que je sois arrêté pour une raison X ou Y. Si je refuse de donner mon mot de passe d'accès à mon ordinateur ou au serveur auquel j'ai accès, pour différentes raisons, parce que ce sont des serveurs professionnels, parce que j'estime que je suis innocent, comme le bébé qui vient de naître, ce qui fera rire la moitié de la salle. Mais qu'est-ce que je risque concrètement actuellement ?
Alors jusqu'à peu, c'était votre droit le plus absolu de ne pas révéler le mot de passe de votre ordinateur ou le mot de passe d'un service stocké en ligne qui permet d'accéder aussi à vos données. Le seul risque, c'était de rester un ou deux jours de plus en garde à vue. Ça, le risque était bien réel. Mais les policiers n'ont pas de moyens de coercition pour vous forcer à communiquer ou à transmettre un mot de passe. Ça, c'est quand même une réalité. Ils éprouvent, d'après ce que j'ai entendu, des difficultés quand même. C'est vrai que le chiffrement les gêne un petit peu quand même. C'est une réalité. Je contredis un petit peu le propos précédent. Notamment suite aux révélations de Snowden et compagnie, les entreprises américaines, Google et autres, se sont mis à chiffrer davantage. Donc chiffrer les téléphones,
C'est-à-dire dans l'ordinateur qu'est le téléphone, avant même que ça parte vers les serveurs.
Et visiblement, pas trop mal, en tout cas, mieux que ce que savent faire les brigades de base au niveau police. Donc ça leur pose un petit peu de problème en termes d'accès aux données. Ça, c'est ce qu'ils me racontent. Maintenant, encore une fois, pour le moment, il n'y a pas d'obligation absolue de transmettre un mot de passe, même si en l'état actuel, avec la loi de l'état d'urgence, ça risque de devenir un petit peu plus dangereux de s'y opposer, ou en tout cas, les réactions risquent d'être un peu plus hostiles, mais pas d'obligation à ce niveau-là.
Étonnamment...
Je rappelle quand même que ça vient du principe que, quelle que soit la situation, garde à vue, etc., on a le droit de garder le silence.
Étonnamment, puisqu'on parlait du chiffrement, Bernard Cazeneuve, qui est le ministre donc de l'Intérieur, l'a très clairement dit dimanche dernier lors d'une interview. Il a dit qu'il allait s'attaquer au chiffrement. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucune banque française, aucun service d'e-commerce qui n'ait protesté là-dessus en disant on en a besoin, alors que c'est grâce à elle que ce n'est plus une arme considérée comme une arme militaire depuis 1999.
On a eu du mal en France à sortir du chiffrement, à débrider le chiffrement pendant longtemps. Il était limité sur la taille de la chaîne de chiffrement, donc le nombre de bits. C'est en 1999, 2001 après, qu'on s'est doucement ouvert en considérant que c'était nécessaire notamment au fonctionnement du web et ce que vous rappeliez, c'est-à-dire le fait qu'on ait le maximum de nos vies qui soient aujourd'hui transférées sur du numérique et sur Internet. Donc on a cette problématique-là. Rappelle-moi la question précisément, je me perds dans la...
Ce que je disais, c'est que justement, ceux qui ont été les principaux militants, c'est-à-dire les banques, les entreprises qui voulaient lancer de l'e-commerce, on ne les entend pas depuis une semaine. Ils ont peur d'être traités de salafistes.
Je crois qu'ils ne bullent pas, et puis je crois qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Je crois qu'ils considèrent que le chiffrement est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas travailler s'il n'y a pas un minimum de chiffrement. Airbus, si, ne serait-ce qu'à tout, je veux dire, si Airbus décidait de ne plus chiffrer ses postes informatiques, ça veut dire ouvrir sa technologie à Boeing. Je ne suis pas certain que ça soit le souhait du législateur que les entreprises françaises ou européennes ouvrent leur technologie largement à des compagnies, entreprises étrangères. Ou concurrentes. Donc je pense qu'elles-mêmes ne se sentent pas vraiment inquiètes et savent que ça ne pourra pas passer. Après, le risque, c'est de faire des sociétés à deux vitesses, c'est d'autoriser par exemple le chiffrement pour l'armée et les entreprises stratégiques, et de l'interdire pour les citoyens lambda dont je fais partie. Ça, par contre, effectivement, on pourrait voir apparaître ce risque-là.
Il y a autre chose dont il est question depuis plusieurs jours, qui est de censurer donc, les sites où sont les djihadistes. Est-ce que c'est facile au sein d'un pays de censurer un site et est-ce que vraiment ça marche ?
C'est surtout que le gouvernement a réussi à faire très fort en faisant voter une loi qui donnait des pouvoirs qu'il avait déjà. Il y a eu un très bon article d'Andrea Fradin dans Rue 89 à ce sujet il y a deux jours qui analysait l'état juridique et avant les attentats du vendredi 13 et avant les votes de loi en urgence qui ont été faits depuis, cette possibilité existait déjà. En fait, elle existait même de plusieurs façons. Il y a l'ARGEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, peut interdire, par une simple décision de cette autorité administrative, peut interdire tel ou tel site de paris en ligne. La justice peut le faire et s'en était pas privée, par exemple, pour les sites de partage de fichiers musicaux, de films, de trucs comme ça. Et le gouvernement pouvait le faire via le ministère de l'Intérieur pour les sites qui faisaient l'apologie du terrorisme. Et ça, c'était bien avant les attentats de vendredi. Donc non seulement il y a eu un excès de législature depuis vendredi, mais en plus souvent inutile, puisque dans le désir d'annoncer des nouvelles lois, on fait quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on remue le menton pour montrer qu'on est sérieux. On a même fait donc voter des lois qui existaient déjà. Celle-là, ça m'est moins dangereuse puisque ça existait déjà. Maintenant, du point de vue technique, là encore, tout dépend de ce qu'on est prêt à faire. Si on fait comme en Corée du Nord, ou de regarder une émission de télé de Corée du Sud, c'est la peine de mort, c'est assez efficace et ça marche assez bien. La plupart des gens ne passent pas outre. Si on est prêt à déployer des moyens comme ça, alors on peut faire effectivement une censure efficace et qui marche. Si on n'y est pas prêt, la censure sera moins efficace et tous les pays qui censurent l'ont découvert qu'on ne peut pas atteindre 100% de succès malgré les mouvements de menton de plus en plus agités des ministres. Ceci dit, ils ne cherchent pas forcément 100% de succès. Ils cherchent à ce que on puisse contrôler l'information vue par la majorité des gens. C'était encore l'exemple que je citais des années 60, hein, où la presse papier était libre. Le Canard enchaîné existait, racontait à peu près ce qu'il voulait. D'autres journaux racontaient ce qu'ils voulaient. Mais la télévision, c'est-à-dire le média, qui à l'époque était la source d'information principale des Français, était contrôlé de manière caricaturale avec le ministre de l'Information qui téléphonait tous les jours quels devaient être les sujets du journal télévisé du soir, des choses comme ça. Donc pour Internet aujourd'hui, les informaticiens souvent ont tendance à ricaner devant les tentatives de censure en disant « Ah, mais c'est facile à contourner, je vais mettre un VPN et puis je vais utiliser Tor. Et puis d'ailleurs, j'ai changé édité resolve.conf pour mettre 888 dedans. »
Pas si vite.
C'est ce genre de mesure...
Oh, c'est la traductrice.
Pardon. Donc, je le dis autrement, les informaticiens peuvent avoir tendance à ricaner face aux mesures de censure parce qu'ils connaissent des techniques qui permettent de passer outre et qui marchent effectivement tant que le gouvernement n'est pas prêt à utiliser des mesures drastiques, genre peine de mort, camp de concentration et tout ça. Tant qu'on n'est pas prêt à faire ça, la censure ne sera pas efficace à 100%. Une partie de la population y échappera. Mais de toute façon, ce qui intéresse les censeurs, c'est la grande majorité de la population qui, elle, ne sait pas utiliser ces outils ou n'est pas consciente de leur existence, la grande majorité de la population qui ne prend pas de précautions particulières, et c'est cela qui les intéresse. Là encore, le but réel n'est pas d'empêcher les djihadistes endurcis de regarder leur site web favori. Ils savent comment faire pour échapper à la censure. Le but, c'est de s'assurer qu'on aura un mécanisme de contrôle de ce que voit la majorité des citoyens. Stanley parlait de société à deux vitesses, c'est tout à fait ça. Le but, c'est que la majorité de la population sur qui on compte, celle qui devra aller voter tous les 5 ans, cette majorité de population, on pourra contrôler ce qu'elle verra. S'il y a quelques personnes qui vont à Capitole du Libre suivre des ateliers où on apprend à chiffrer, à ce genre de choses, c'est pas un problème. S'il y a quelques utilisateurs de Tor, un système permettant d'aller sur le web de manière relativement anonyme, c'est pas un problème. Ça n'est un problème que si on croit vraiment que le but, c'est de combattre le terrorisme. Et ce n'est pas du tout le but de ces mesures. Le but, c'est de mettre en place un contrôle des médias tels qu'ils sont vus par la majorité de la population.
Alors, juste un complément sur le flicage d'Internet, il n'y a pas d'autre mot. Faire fermer des sites, ça, effectivement, ça fait longtemps qu'on sait faire. Le problème, c'est que c'est facile à rouvrir aussi. Donc faire fermer un site, si c'est pour qu'il soit recréé dans les 3 heures, c'est un peu une perte de temps, c'est fatigant, agaçant. Donc le législateur s'est dit, on va faire mieux, et ça avait été voté, c'est passé, on va permettre aux juges d'ordonner à la totalité des fournisseurs d'accès à Internet de rendre inaccessible un contenu à un public français. Et ça a été voté. Donc aujourd'hui, on est, il faut le savoir quand même, sur un contrôle de l'accès à Internet, comme au niveau chinois, c'est-à-dire que l'État peut décider à quelles informations vous pouvez accéder depuis le territoire français. Ce n'est pas la fermeture de site, c'est simplement de vous dire, vous ne savez pas si le site existe ou pas, mais on vous empêchera d'y accéder avec des moyens normaux. Donc, si vous connaissez les moyens de contournement, ça sera très facile de les contourner, avec Tor, avec d'autres outils. Donc encore une fois, pour des gens un petit peu compétents, quand je dis un petit peu compétents, c'est qui ont lu un site et demi sur la question, hein, ça va très très vite pour se former là-dessus, ça ne posera pas de problème. En revanche, pour la totalité des autres, ils s'apercevront qu'il y a des contenus auxquels... ils ne s'apercevront d'ailleurs pas que le contenu n'existe pas. C'est-à-dire que le contenu ne remonte pas, quoi. On veut accéder à un site et le site bloque, le site n'existe pas.
Est-ce qu'on ne risque pas, à terme, d'entrer dans les mêmes situations? Par exemple, les boxeurs professionnels doivent déposer leurs empreintes à la police, si on ne doit pas finalement, parce qu'on a la connaissance en tant qu'informaticien, on ne doit pas faire l'objet d'une déclaration de police.
Alors, je ne sais pas si l'informaticien est une arme par destination, c'est peut-être pas encore le cas, mais ça peut le devenir, pourquoi pas. Non, on va espérer que ça ne se produise pas demain. Et comme cette compétence, heureusement, se répand et s'élargit au niveau de la population, ça voudrait dire qu'il faudrait ficher la totalité de la population. On ne peut pas imaginer une chose pareille, comme si ce n'était pas déjà le cas en l'espèce.
Voilà, c'est ça. Voilà. Stéphane, dernière chose avant de céder la parole au public. Avec le micro, serait
mieux. Non, c'est très bien de céder la parole au public.
Donc, à vous la parole. On a estimé qu'il était important que justement vous ayez le plus possible la possibilité de poser des questions. Donc, monsieur, je vous prie.
Alors, on fait tourner un micro parce que la séance est enregistrée.
Bonjour, c'est une question qui concerne plus l'avocat. Donc, actuellement, l'état d'urgence permet, d'exercer tous les moyens de recherche sur le terrorisme, sur l'apologie du terrorisme, des trucs connexes comme le trafic d'armes et le trafic de drogue. Mais là, j'en arrive au cœur de ma question. Est-ce que le pouvoir peut, à ce jour, le faire pour du syndicalisme musclé, comprenant de l'arrachage de chemises, de l'arrachage d'OGM ou Notre-Dame-des-Landes? Est-ce qu'à ce jour, ils peuvent le faire?
Le gouvernement se considère autorisé déjà à interdire toute forme de manifestation. Donc, ça veut dire que potentiellement, le gouvernement peut interdire toute réunion de plus de 2 personnes, quoi. Donc déjà, pour le syndicalisme, ça complique un petit peu les réunions, quand même. Partant de là, non, ça va très très loin. C'est l'État, le gouvernement peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire interdire les réunions publiques, privées, sans aucune difficulté. Donc il y a un risque évident. Je ne pense pas qu'il se manifeste à très court terme, mais le risque est évident, oui.
Une autre question, je vous prie. Ne soyez pas timide, hein. La caméra ne pointe pas sur vous.
Bon, on a des fiches quand même à rendre après, c'est ce qu'on nous a demandé.
C'est un petit peu la complexité, oui. Oui, monsieur.
Bonjour.
Bonjour, Rodolphe.
Xavier. Globalement, on a quand même l'impression que la sécurité... Alors, la semaine dernière, j'aurais dit la sécurité informatique, mais aujourd'hui, on peut dire la sécurité tout court. La sécurité, elle est dans un sale état. On a vraiment l'impression, depuis moi en tout cas, depuis une dizaine d'années, qu'on est de moins en moins bien protégé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour le coup, dans la sécurité informatique, c'est plutôt une question de technique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça?
Justement, non, c'est pas une question purement technique, parce que justement, il n'y a pas de solution purement technique à un problème politique. Alors d'abord, sur est-ce qu'on est moins en sécurité ou plus? Pour tout ce qui est de la vie privée et de la surveillance, c'est, si on regarde à échelle de 30 ou 40 ans, on a perdu, c'est clair. On a perdu parce que, pour les raisons que j'ai dit, c'est bien plus facile de surveiller et de traquer les gens sur les outils de communication numérique. Je me souviens d'avoir lu une interview dans un journal d'un ancien officier de la Stasi qui racontait que son problème, c'est qu'il avait les moyens matériels d'écouter 40 personnes à la fois, et quand ses supérieurs lui disaient « tu mets sur écoute un tel », il devait en débrancher un des 40 parce qu'il n'avait simplement pas les moyens matériels, les stations d'écoute physiques pour le faire. Et évidemment, les supérieurs ne lui disaient pas lequel débrancher. C'était à lui de prendre la responsabilité et de se faire engueuler après. Donc même quand il y avait une volonté de surveiller tout le monde et aucun scrupule de la part de l'État est-allemand pour l'en empêcher, c'était difficile. Avec l'informatique, ça devient facile, ce qui est normal. Le but de l'informatique, c'est de permettre de faire en grand des traitements automatiques. Donc c'est normal que ça rende la surveillance plus facile. Donc sur une période donc de 30 ou 40 ans, le déploiement de l'Internet et des outils de communication numérique, on y a perdu. Après, il y a aussi un effet qui est un effet de prise de conscience. Par exemple, il n'y a pas plus de surveillance depuis les révélations de Snowden, par exemple. Enfin, il y en avait déjà avant. On était surveillés avant, mais beaucoup de gens dormaient tranquillement. Donc c'est plutôt un côté de prise de conscience. C'est important cette histoire de prise de conscience parce que l'un des problèmes de la surveillance de l'Internet, c'est pas seulement qu'elle ait lieu, c'est que les gens n'en sont pas conscients. Un lobbyiste de Google, Vinton Cerf, utilise souvent la comparaison avec le petit village où il avait grandi, où tout le monde surveillait tout le monde en permanence, où il n'y avait aucune vie privée dans ce petit village. Mais donc son argument, c'est donc de dire « Donc c'est pas grave si Google vous espionne, hein, c'est très bien, c'est normal, c'est comme ça, et tout le monde peut vivre sans vie privée. » Mais ce qu'il oublie dans la comparaison, c'est quand même deux choses extrêmement importantes. Il y en a une, c'est que dans le petit village, la surveillance était réciproque. Par exemple, le maire savait tout ce que faisaient ses administrés, mais c'était réciproque. Et il y avait surtout le fait qu'on en était conscient. Les gens savaient bien que si tu causais à quelqu'un sur la place du village, tout le village allait être au courant dans la journée. Donc ça, cette conscience n'existait pas en informatique avant Snowden, et souvent, elle est toujours pas vraiment comprise. Parce que les gens qui sont pas informaticiens, souvent, ne se rendent pas compte de à quel point c'est facile d'espionner en masse beaucoup de gens et de récolter beaucoup d'informations. Pour un exemple qui peut paraître trivial, mais qui rend compte vraiment de cette facilité, c'est dans les récits de Snowden. Il raconte que quand les employés de la NSA s'ennuient, parce que surveiller des djihadistes toute la journée, au bout d'un moment, ou des trafiquants de drogue, c'est un peu ennuyeux, ils fouillent dans les communications personnelles des gens à la recherche de photos légères que les gens s'envoient. Et après, les meilleurs, ils se font circuler entre eux en rigolant grassement. Donc, bon, par rapport aux mesures de répression du syndicalisme ou de l'opposition dont on a parlé, ça peut paraître bien innocent, mais ça donne une idée des capacités qu'ont les gens qui interceptent les flux de communication. Et les gens qui s'échangent des photos très personnelles sur les réseaux, souvent ne se rendent pas compte de cette facilité. Souvent, il y a un côté... on croit quelque part que c'est pas quantitativement possible ou qu'on peut pas fouiller dans tout ça, mais on peut. Là encore, trouver, par exemple, dans 1 million de messages, trouver celui qui est envoyé de Alice à Bob, alors qu'il y a un seul message sur 1 million qui est envoyé de Alice à Bob, pour un informaticien, c'est évident que c'est trivial et que ça se fait en quelques secondes. Les gens qui ne sont pas informaticiens et qui sont restés un peu au mode de fonctionnement de données, des fichiers papier, ont du mal à le percevoir. C'est pour ça qu'une des façons de faire progresser la sécurité, c'est de faire progresser les compétences en informatique de la population. Alors quand je dis ça, souvent on bondit en disant « Mais vous voudriez quand même pas que Mme Michu, elle apprenne l'informatique. » Alors d'abord, si. Si, parce que à partir du moment où tout le monde utilise l'informatique pour tout, et pas seulement donc pour quelques activités professionnelles limitées, si, c'est tout à fait normal. De la même façon que savoir lire et écrire était une compétence technique utilisée par une toute petite partie de la population au Moyen-Âge, aujourd'hui, c'est un savoir minimum. Si on ne sait pas lire et écrire, on est très mal. Donc aujourd'hui, si on ne sait pas, si on n'a pas quelques compétences minimum en informatique, on est effectivement très mal. Et donc c'est indispensable que, effectivement, tous les citoyens montent en compétences en matière d'informatique. Après, les autres, il y avait la question était quand même qu'est-ce qu'on peut faire. Il y en a deux autres points importants. Donc, premier truc, c'est le progrès de la littératie numérique, c'est-à-dire de la compétence de base en informatique. Pas devenir informaticien, mais acquérir des compétences de base en informatique. Le deuxième, c'est politique. C'est les lois sont votées et appliquées par des gens. Il y a des choses qu'on peut faire et on peut agir pour ça. En ne votant pas pour ceux qui ont voté la prolongation de l'état d'urgence, ce genre de choses. Et le troisième, il est technique, c'est effectivement de prendre un certain nombre de mesures de sécurité. Mais là, ça devient difficile, on sort pas mal du cadre du débat, c'est le genre de choses qui est couvert dans les crypto-parties ou dans les choses comme ça. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que la plupart des gens ici ne sont pas venus pour ça.
Oui, en l'occurrence, la médiathèque accueille régulièrement des crypto-parties. Donc on n'est pas très loin non plus.
Merci d'ailleurs à leur équipe. Juste une chose quand même, une des questions qu'on n'a pas abordées, qui est qu'on va ficher l'ensemble des Français. L'autre problème aussi, c'est la porosité du fichier. C'est quand il y a des personnes qui y ont accès, qui ne devraient pas y avoir le droit. C'est déjà arrivé plus d'une fois que des grandes entreprises, grâce à des complicités au sein de la police, aient eu accès à des fichiers de police pour des cas de recrutement ou même pour accorder ou non des emprunts. Est-ce que, justement, de ce côté-là, il y a enfin une prise de conscience au niveau politique ou ça n'est toujours pas rentré ?
Tu mets le doigt sur un problème récurrent en matière de sécurité informatique. C'est que généralement, les ordinateurs sont plutôt fiables. Celui qui l'est beaucoup moins, c'est celui qui l'a programmé.
Tu veux dire que le problème est entre la chaise et le clavier ?
C'est à peu près ça, oui. C'est souvent ça. C'est en matière de sécurité, en matière de sécurité des fichiers, c'est ça. L'ordinateur fait assez peu d'erreurs ou n'en fait pas. Par contre, celui qui l'a programmé, lui, en fait. Et où va être sensible à des arguments auxquels l'ordinateur ne l'est pas. Par exemple, si vous recevez un moins 50% sur votre marque de vêtements préférée, par mail, vous allez être tenté de cliquer. Ce qui est le début, généralement, d'un piratage dangereux. L'ordinateur, lui, ne fera pas cette erreur-là, a priori, même. Donc généralement, oui, il y a quand même beaucoup de travail à faire sur l'utilisateur, que ce soit sur la sécurité dans les entreprises, que ce soit sur sa propre protection en tant qu'utilisateur des systèmes, et il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire. Tous présents aujourd'hui, vous avez déjà, je pense, constaté que quand vous faites une recherche dans Google, curieusement, après, vous voyez apparaître des publicités liées à cette recherche que vous avez faite précédemment. A priori, je ne vous apprends rien. Mais vous avez probablement, et là peut-être de manière moins large, constaté aussi que entre le moment où vous demandez l'affichage d'une page web et le moment où elle s'affiche, vos données, c'est-à-dire l'ensemble, le maximum de données que vous aurez laissé filtrer, vont être échangées des dizaines de fois, des centaines de fois, pour savoir qui aura le droit de vous afficher quelle publicité. C'est un peu comme les pétroliers qui circulent dans les océans et qui changent de propriétaire 50 fois avant d'arriver à destination. Il y a une spéculation sur le pétrole. Sur les données personnelles aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Il y a une spéculation en temps réel, il y a un marché en temps réel des données personnelles pour savoir qui va payer le plus pour vous afficher quelle pub et à quel endroit et à quel moment. Et donc là aussi, il faut se former, il faut être sensible à ces choses-là. Alors sur la publicité, c'est beaucoup plus trivial que la sécurité de l'État, mais c'est exactement les mêmes mécanismes. Donc autant se former sur des éléments simples, la publicité, le profilage publicitaire, pour mieux comprendre derrière comment ce que fait Google, ce que fait Facebook, peut être reproduit exactement de la même manière par un État plus ou moins ouvert.
Gérard, au fond, là, numéro de sécurité sociale, 1 55 12 976 55 3, c'est ça ? Non, pas du tout, bon d'accord.
poser votre question.
Pas du tout. Non, simplement.
Je vous confonds avec un autre.
Non, vous confondiez, excusez-moi. Non, pour abonder dans le sens de la sécurité d'entreprise, je peux vous confirmer qu'il y a des trous en matière de sécurité qui sont exceptionnels. Il vous suffit, sur la barre d'espace de Google, sans être informaticien, vous tapez le nom d'une grande entreprise, à côté, ne pas diffuser, confidentiel, diffusion restreinte, et vous tombez sur un gisement d'informations énorme. Je l'ai fait, j'ai tapé le nom d'une grande entreprise, j'ai tapé à côté confidentiel, je suis tombé sur les barèmes réservés aux PME que l'on peut négocier. Donc si vous êtes patron d'une PME, le barème est de 4%, mais la banque peut descendre jusqu'à 2,5% et c'était affiché en diffusion restreinte. Maintenant, ma question est aussi aux juristes, excusez-moi, c'est n'y a-t-il pas un décalage entre la technologie et le droit? Est-ce que le droit n'a-t-il pas un temps de retard par rapport à la technologie? La Google Car pose un problème au sens où on ne sait pas en cas d'accident qui est responsable, le conducteur, l'industriel, le programmateur de logiciels. Les drones, on ne sait pas trop dans quel cadre juridique ils doivent fonctionner. Donc finalement, est-ce que nous ne sommes pas condamnés à vivre dans un état d'insécurité technologique et juridique? Merci.
Alors, c'est vrai que souvent le juriste est à la ramasse par rapport à l'ingénieur ou au technicien en termes d'évolution. Ça, c'est une réalité. Quoi. Les changements technologiques sont appréhendés tardivement par le législateur et derrière par le juriste. Après, les vieilles lois ou les lois actuelles ne sont pas forcément systématiquement obsolètes du fait de l'arrivée de nouvelles technologies. On arrive à adapter très très bien des vieux textes de loi. Aujourd'hui, est-ce que vous savez quelle est la loi qui réglemente l'expression sur Internet ?
C'est la loi de la presse de 1882 ?
Exactement, exactement. Mais donc on remonte deux siècles en arrière, et c'est une loi qui, de 1800 et quelques, qui s'applique aujourd'hui au fonctionnement d'Internet, et qui n'a pas été changée pour Internet. Donc dans certains cas, c'est vrai qu'il y aura des adaptations nécessaires, par exemple pour les voitures autonomes, vont se poser des questions, en même temps elles semblent déjà résolues, par exemple Google a dit « nous on veut bien être responsable du fonctionnement des voitures en mode autonome ». Si Google dit « je suis responsable », je sais sur qui taper en cas de problème, j'ai même pas besoin de changer la loi en fait. C'est contractuel, ça marche très bien. Donc il faut faire la part des choses entre l'adaptation et la compréhension par le législateur, j'ai suffisamment critiqué, par le juriste, des changements technologiques et de ce que ça entraîne et de ce que ça déclenche comme changement de comportement, et de l'adaptabilité, de l'adaptation de la loi qui est souvent beaucoup plus souple qu'on ne le pense. Je me souviens qu'on parlait de vide juridique au début d'Internet. Or, il n'y avait quasiment pas de vide juridique. Il y avait un ou deux statuts à préciser, celui de l'hébergeur, mais globalement, depuis, on n'a pas fondamentalement changé les textes.
Et puis, je vais défendre les juristes. Ils ne sont pas plus à la ramasse que les autres. C'est l'ensemble de la société qui est en retard par rapport au progrès, au changement dans les technologies de communication. Les juges ou les avocats ou les procureurs ne sont pas plus ignorants là-dessus que les gens ordinaires, que les ministres, que les policiers, que les citoyens ordinaires. Donc le problème n'est pas spécifiquement dans le droit. C'est un problème de comment la société s'adapte à des changements technologiques.
C'est à moi.
Je ne sais pas qui a le micro, là.
C'est Nathalie qui a le micro.
Alors, je commence.
Pas si vite, on n'arrive pas à piger en régie, là, tous les gens qui prennent le nom.
Alors, je vais d'abord une info. Donc, le projet de loi état d'urgence vient de passer au Sénat. Donc, 348 votants, 336 exprimés. 336 non,
mais comme
pour.
J'ai fait la démo tout à l'heure, personne n'a envie de lever la main pour voter contre.
Bah, voilà.
Ta question, je
te prie.
Et
la question, c'était à Stéphane. Et les boîtes noires ?
Alors, quoi, les boîtes noires, elles n'existent pas. C'est pour ça qu'elles sont noires, c'est pour qu'on ne les voit pas. Non, les boîtes noires, c'était le nom qu'avait donné d'ailleurs c'était le nom qu'avait donné le gouvernement à un dispositif prévu par la loi renseignement d'écoute systématique des communications et que les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs, étaient obligés d'installer dans leur réseau pour intercepter facilement les communications. Alors, les mauvaises langues disent que ça existait depuis très longtemps. Et que ça n'a fait été que légalisé. D'ailleurs, l'exposé des motifs de la loi disait clairement tout ça se fait déjà, mais ça nous dérange que ça soit pas vraiment légal. Donc on se sentirait mieux, on dormirait mieux si c'était légalisé. Donc ça existait déjà. C'est pour ça que d'ailleurs, tout responsable sécurité dans une organisation a toujours bâti sa sécurité informatique en faisant l'hypothèse que tout le trafic était écouté. C'est pas forcément toujours vrai, mais c'est quand même une supposition raisonnable quand on prépare les mesures de sécurité, notamment le chiffrement. Donc il y a effectivement, un petit rappel, en France, légalement, tout opérateur Internet est obligé de mettre sur son réseau un dispositif d'écoute qui intercepte tout le trafic et l'envoie au gouvernement pour analyse éventuelle. Donc après, c'est un bon exemple de pourquoi c'est absolument indispensable de chiffrer les communications, parce que si le gouvernement le fait, d'autres peuvent le faire aussi. Il n'y a pas de raison technique particulière. Tout le monde le fait, et c'est bien ça, justement, l'un des dangers de l'utilisation de l'Internet.
Alors, je rappelle juste une chose, c'est que dans l'aviation, les boîtes noires sont de couleur orange. Question, s'il vous plaît.
Alors, c'est pas tant une question qu'une remarque sur ce qui a été dit tout à l'heure. Notamment, vous avez dit que les régimes autoritaires ou totalitaires, beaucoup avaient été élus. Ça, je suis pas sûr. Hein, c'est le cas d'Hitler, c'est pas le cas de Staline ni de Mao. Et puis, il y a un ensemble de putschs qui sont faits dans un certain nombre de pays. N'empêche que sur le fond, je suis d'accord avec l'argumentaire. C'est-à-dire de dire que la technologie qu'on a aujourd'hui, et ça a été toute la question traitée par Gunther Anders, de dire qu'aujourd'hui, la puissance technologique qu'on a, elle dépasse nos capacités de représentation. Et comme aujourd'hui, la technologie nous ancre dans une forme de présent perpétuel, on est incapable de mettre en perspective les éventuelles externalités négatives, politiques, sociales, économiques, écologiques. Et donc, toute la question aujourd'hui qu'on doit se poser en tant que citoyen, c'est à partir du moment où on va nous présenter une technologie, c'est quelle peut être, en quoi cette technologie peut-elle nous émanciper en tant que citoyen, en tant que collectif, et dans quelle mesure elle peut nous asservir. Et je suis très surpris, notamment quand je discute, et c'était le fond de votre remarque, je pense, en disant, mais et si un jour on avait un régime autoritaire? Et je suis très surpris de la plupart des gens. Alors il y a l'émotionnel qui est lié aux attentats, hein, sans parler de stratégie du choc, il y a un choc émotionnel, voilà, qui se passe. Et donc, la plupart des gens, on l'a vu dans des récents sondages, sont prêts à abandonner une partie de leur liberté, sont prêts notamment pour régler des problématiques de chômage aujourd'hui, d'avoir un gouvernement plus autoritaire. Et ça, je trouve que c'est de plus en plus nouveau et de plus en plus, de plus en plus inquiétant. Je pense que la vraie... et puis finalement, on me dit, moi aujourd'hui, et c'est ça qui me choque beaucoup, moi je suis prête à me faire plus surveiller. Je pense que la vraie remarque à dire à ces personnes-là, en y réfléchissant un peu, c'est de dire, concernant la COP21, il y a un lien en fait entre, je pense, l'écologie, le réchauffement climatique et cette question de la protection de la vie privée. C'est pas un lien évident, n'empêche que si on se dit qu'on va sur une augmentation de plus de 2 degrés et on y va, il va y avoir moins de ressources en eau, il va y avoir des crises, notamment de la faim, des émeutes de la faim qui vont venir là-dessus. Imaginez juste un État, même un régime représentatif aujourd'hui, où les citoyens ne votent pas directement les lois, eh bien, on peut très bien se dire que lorsqu'il y aura une pénurie de ressources, eh bien, toute révolte sera proprement impossible avec ces techniques de surveillance de masse. Voilà, c'était juste cette remarque.
Une autre question, peut-être ? Je rappelle juste quand même que le chiffrement consomme énormément d'énergie et c'est l'une des raisons invoquées actuellement par certains, c'est d'interdire le chiffrement pour économiser l'énergie.
Je reviens sur l'histoire de le législateur et les juristes sont à la ramasse. En fait, ce qui met le législateur et les juristes, c'est cette frénésie législative. On se retrouve à faire des, ils se retrouvent dans les différents parlements à faire des textes sur tout et n'importe quoi, et ils en oublient la hiérarchie des lois, c'est-à-dire qu'il y a un objectif et derrière on va affiner jusqu'à l'arrêter pour normalement avoir là la technologie finale de comment on la gère. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, on remonte les éléments de technologie dans les lois, et le jour où la technologie a évolué, ben la loi, elle n'est plus adaptée, puisqu'on parle d'une technologie qui n'a plus lieu d'être, ou qui a été contournée, ou qui fonctionne différemment. Et le danger de ce qu'on voit, c'est cette non-appréhension et cette non-compréhension de la technologie, de dire, ce n'est pas la technologie que je dois réglementer, c'est ce qu'on en fait. Et réussir à faire ça, c'est pas encore demain qu'on a des législateurs qui vont être capables d'avoir la clairvoyance qu'il faut pour ça. Surtout on voit qu'il y en a qui disent je suis contre la loi état d'urgence et qui quand même vont quand même malgré tout la voter.
Ils l'ont votée.
En même temps, contrôler l'usage de la technologie, on rentre dans un domaine qui est très délicat. Dans le domaine du numérique, par exemple, la nouvelle loi renseignement, l'un des arguments pour justifier cette loi très liberticide, c'était « mais il y aura un meilleur contrôle qu'avant, puisque la commission de contrôle comportera plus de membres, et dans le lot, il y aura un technicien ». Et cet argument avait été souvent cité par Cazeneuve lors des discussions sur la loi. Le problème, c'est que ça oublie de prendre en compte quand même quelque chose d'assez spécifique au numérique, c'est le fait que ça ne laisse pas de traces. Et donc il est extrêmement difficile de contrôler ce qui est fait. Quand un postier indélicat ouvre une enveloppe, regarde ce qu'il y a dedans et la referme, ça laisse des traces, ça peut se voir. Quand un fournisseur d'accès Internet ou une boîte noire sur son réseau copie les données qui passent, ça ne laisse rigoureusement aucune trace. Il n'y a aucune manifestation. Dans les vieux romans policiers, les gens détectent qu'ils sont sur écoute parce qu'au moment où ils décrochent, il y a un petit clic, c'est l'enregistreur qui se met en route, des choses comme ça. Rien de tout ça n'existe dans le numérique. Donc contrôler n'est pas... Enfin, pose des problèmes très difficiles. En gros, si vous dites... Ça sera vraiment très difficile de savoir si tous les gens ont bien fait leur boulot. Par exemple, vous avez un fichier légitime, déclaré et tout, qui est quelque part. Comment s'assurer que, effectivement, c'était l'exemple que tu as cité tout à l'heure, que quelqu'un ne va pas, pour son intérêt ou son profit personnel, en prendre une copie et sortir avec ? Ben, c'est très difficile parce que c'est immatériel. Donc, c'est vrai, et la copie ne laissera pas beaucoup de traces. Alors, dans les boîtes qui sont suffisamment paranoïaques, il y a tout un tas de mesures contre ça, qui marche modérément. Après tout, s'il y a une boîte qui connaît bien la sécurité informatique, c'est la NSA. Il y a quand même un employé qui a pu sortir de la NSA avec des quantités colossales de données sur ce que faisait la NSA. Ça illustre bien l'extrême difficulté qu'il y a dans le numérique à empêcher les abus. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la loi informatique et liberté pose un sage principe qui est de ne collecter que les données strictement nécessaires. C'est-à-dire de ne pas faire ce que font 99% des boîtes de e-commerce, qui est collecter des données à tout hasard. On verra bien, ça servira bien un jour. Ce qui est une violation directe de l'esprit de la loi informatique et liberté. Cette attitude de collecter tout et on verra bien est très dangereuse, justement parce que tout peut être mal utilisé. Donc en demandant... De demander que dans le fichier, il y ait un minimum de données, quelles que soient par ailleurs les précautions qui ont été prises pour protéger l'accès au fichier, c'est une très bonne idée. La loi informatique et liberté a un très bon principe là-dessus. Pour revenir à la commission de contrôle, la nouvelle commission de contrôle, la CNCTR, je ne sais plus quoi, le technicien qui est là-dedans a été nommé. Bon, quelles que soient ses compétences, il va devoir connaître tellement de choses tellement différentes que un technicien seul ne suffirait pas. Et puis surtout, il n'aura aucun moyen de vérifier que c'est vrai. On va pas lui permettre d'aller fouiller dans les ordinateurs de la DGSE, de la DGSI, pour voir si la collecte se fait vraiment comme elle est censée se faire. Le seul truc sur lequel il pourra travailler, c'est les rapports que lui enverront les services. Avec les rapports de synthèse, cette année, on a intercepté tant de gigaoctets, on a trouvé tant de suspects, etc. Et il faudra juste qu'ils se décident là-dessus. Il n'y a pas de contrôle sérieux possible dans ces conditions. Le seul contrôle sérieux, ça serait s'ils pouvaient aller sur place. Imaginez, par exemple, les contrôles de sécurité que font les pompiers dans les lieux de spectacle, par exemple. Imaginez ce que seraient ces contrôles si le pompier n'avait pas le droit de se rendre dans le bâtiment et d'ouvrir toutes les portes. S'il devait uniquement se contenter d'un rapport fait par les propriétaires de la salle. Bah, tout le monde dirait que ces contrôles ne sont pas sérieux. Dans le numérique, on en est souvent à ce stade-là. C'est-à-dire que la plupart des contrôles ne valent rien. Et c'est très difficile d'imaginer ce que pourraient être des contrôles fiables dans le domaine du numérique. C'est pour ça que le principe de la loi informatique et liberté de limiter la quantité de données collectées est un excellent principe. Bien meilleur que l'argument qui est toujours donné quand on conteste un fichier, qui est « ne vous inquiétez pas, l'accès au fichier est sécurisé ». Cet argument-là ne vaut rien parce que, de toute façon, il y aura bien des gens qui auront un accès. Et comment empêcher qu'ils en abusent, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il est très important de limiter les fichiers.
Je vous en prie, madame.
Bonsoir, je me fais porte-parole de mon voisin qui est à Faune, en fait. Donc, on n'arrivera pas à refaire pré-crime comme le film Minority Report avec Tom Cruise, mais on prétexte des problèmes pour contrôler plus et priver des libertés. On sait que ce sera vain, car toujours contournable par des malveillants. Ça affecte surtout les gens honnêtes. Ça affectera, pardon, surtout les gens honnêtes le jour où le système de contrôle sera entre de mauvaises mains. On aura tous une étoile jaune, mais cette fois-ci dans notre dos. Comment faire comprendre aux politiques que la solution est ailleurs ? Premièrement, dans l'éducation. Deuxièmement, dans l'écoute des desiderata citoyens. Et troisièmement, dans la compréhension du pourquoi quelqu'un devient dangereux. On ne naît pas terroriste, mais on le devient. On ne se fait pas exploser par plaisir, mais par désespoir. Comment éveiller nos politiques à l'origine des problèmes et non pas à tenter de corriger les erreurs par du contrôle ?
Salman Rushdie qui disait « Arrêtez de croire que vos hommes politiques sont complètement idiots ». Ils ne sont pas complètement idiots, ils savent très très bien ce qu'ils font et ils organisent les choses comme ils souhaitent qu'elles se produisent. Donc je ne sais pas s'il y a besoin d'une prise de conscience des politiques ou si ils font déjà ce qu'ils souhaitaient faire au départ et en y allant et en accélérant le mouvement. Je ne suis pas certain qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ça c'est une première remarque. Après, même quand on leur explique techniquement que c'est une aberration, on se retrouve à quand même des positions de principe et des lois qui sont votées. C'est vrai au niveau technique, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai aussi au niveau juridique. Et ça rejoint les interventions et questions précédentes, où on se retrouve avec des réactions démesurées, sous le coup de l'émotion, et puis avec des lois opportunistes. À la suite des attentats, c'était évident, mais on l'a vu précédemment avec des couches rajoutées successivement, que ce soit dans plein de domaines, dans la propriété intellectuelle, mais aussi dans la sécurité et le droit pénal, où on a des textes de loi qui marchent, qui s'appliquent, et on va en rajouter une couche complètement inutile, sauf pour des questions d'opportunité, de communication politique, mais on se retrouve avec un corpus de règles complètement infernal, avec une incontinence législative, on parle de ça, quoi, de législateurs qui n'arrivent plus à se retenir, et qui sort de la loi comme ça, mais sans se demander si c'est le moyen le plus efficace de faire évoluer la société. De la même manière, le législateur n'arrête pas de faire des nouvelles lois, alors que souvent il suffirait de modifier à la marge une loi, de modifier un décret d'application pour dire bah, c'est pas à partir de 8 qu'on contrôle, mais à partir de 10, pour changer radicalement le sens de la loi et lui permettre de fonctionner. Non, on va raser, réformer la loi existante, et en voter une autre qui va être souvent l'objet forcément de compromis, mais à l'arrivée très mal rédigé, on va effectivement rentrer dans le détail et avoir des lois qui sont incompréhensibles pour les citoyens et plus dangereux, incompréhensibles pour le juge et l'avocat qui va plaider aussi. À titre d'exemple, je veux pas vous, c'est un petit peu hors sujet, mais on est en train de se préparer à une réforme du code civil. Personne n'en parle, le législateur n'en parle pas, les médias n'en parlent pas, même les avocats n'en parlent pas. Et j'ai vu arriver le Code civil, l'édition 2015, et puis un appendice à côté avec un projet qui va arriver de réécriture d'articles sur des détails, hein, sur la théorie générale des obligations, c'est-à-dire tous les contrats. Et on avait des textes extrêmement clairs, et on se retrouve avec une espèce de bouillie verbale où il faut deux fois plus de place pour dire la même chose. Et c'est systématique, avec une influence européenne, derrière anglo-saxonne, mais avec des textes derrière incompréhensibles. Quoi. Quand on retombe sur les vieilles dispositions du code civil, du code pénal, il y a des choses évidentes. Quoi. Qu'est-ce que c'est le vol ? C'est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. En une phrase, c'est dit. Il n'y a pas besoin d'expliquer en détail que si on vole sur une voiture à moitié ouverte, c'est aussi du vol. Non, on donne une règle large et on laisse le soin au juge derrière d'interpréter la règle de droit et puis de pouvoir éventuellement la faire évoluer un petit peu à la marge en fonction aussi des circonstances, des individus et puis de l'évolution globale de la société, de l'évolution des mœurs, des pratiques, etc.
Tu sais quel est le point commun entre un code juridique et un code informatique ?
Il y en a quelques-uns, mais...
Moins il y a de règles, moins il y a de bugs.
Oui, je suis bien d'accord.
Bonsoir.
Monsieur.
À Mathieu. Alors, moi j'entends un énorme malentendu, là, depuis tout à l'heure, sur les mots politique, législateur, sécurité, contrôle. Je connais bien ces mots. Le problème, c'est que là, vous n'utilisez pas du tout des mots d'informaticien, même si je ne le suis pas, qui sont pourtant essentiels à comprendre. C'est la notion de symétrie ou de dissymétrie, de centralité ou de décentralité. Excusez-moi, mais un contrôle, un législateur, une politique, une sécurité centralisée et dissymétrique, finalement, sont tout l'inverse. Ils ne nous permettent pas d'être en démocratie, ne font pas des législateurs des législateurs. C'est-à-dire que la démocratie, c'est nous tous législateurs. Moi, si quelqu'un écrit les lois pour moi, je ne suis plus en démocratie. Je dois les écrire moi, les valider moi en référendum. Si je suis contrôlé par une instance centralisatrice, justement, je suis donc, enfin, si je suis surveillé par, Si moi, s'il n'y a pas de symétrie entre moi et les autres, si quelqu'un nous surveille, c'est que forcément, il contrôle. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas en démocratie. Et évidemment, nous sommes contrôlés. Et comme disait Edward Snowden dans Citizen Four, justement, surveiller, c'est contrôler. Et contrôler, c'est manipuler hein, les gens. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes exactement là-dedans, hein, dans une dissymétrie et une centralité du pouvoir d'abord législatif, c'est là où c'est important. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous n'écrivons pas les lois. Elles sont écrites pour nous et contre nous. Et donc, tout vient de là. C'est-à-dire qu'après, on parle de sécurité et de contrôle, là, j'entends. Mais moi, justement, nous sommes trop contrôlés. C'est-à-dire la sécurité, c'est pas du tout celle qui... nous ne sommes pas souverains de notre sécurité. On voit très bien qu'aujourd'hui, enfin, je ne suis pas le seul à me demander qui a fait ces attentats. Je veux dire, la télé nous dit que, mais la télé, c'est justement le symbole de la centralité. Donc là, ça devient chaud, quoi. On commence en ce moment-là. Ceux qui posent des questions, justement, sur comme je fais... On est mis en marge de la société, on ne va pas trouver de boulot, on sent vraiment qu'aujourd'hui, c'est terrible. Quoi. Donc ces mots-là, il faut qu'on en parle. Et c'est à travers l'outil informatique que justement, moi, j'ai découvert, hein, c'est cette notion-là, je ne l'avais pas entendue depuis peu, hein, jusqu'à que je m'en suis informé. Donc heureusement, grâce à Tout Libre, grâce à Tétat Neutral, grâce à ces réseaux justement décentralisés, hein, qui m'ont ouvert les yeux. Et donc je finirai juste, tout à l'heure tu disais que la planète chauffait de 2 degrés, or c'est faux, hein, c'est le GIEC justement qui nous dit cela, et est une instance totalement centralisatrice et qui nous dit en fait que des mensonges. Il faudrait comprendre pourquoi d'ailleurs, on en parlera une autre fois si tu veux.
Je ne crois pas que ça soit le débat, voilà. Effectivement. Donc.
Juste, mais pour...
Mais oui. Votre question pour, voilà. pour vraiment faire la toute okay, dernière.
Merci.
Non, puisque là, pour le coup, on ne passe pas le micro pour la dernière question.
Si, c'est moi qui le prends. sur les journaux, là, sur la COP21, sur le 21e siècle, P2, la situation P2, P2, ça vous parle ?
Non.
Ah, en peer-to-peer, pardon, en P2P. Là, c'est quand même une solution quand même pour avoir des communications très libres de personne à personne. Ça serait une solution.
C'est l'un des problèmes récurrents d'Internet, c'est qu'on dit qu'au départ, Internet était un système décentralisé et on est revenu vers trop de centralisation sur le système lui-même.
Quelqu'un avait demandé effectivement des pistes de solutions techniques au problème de la surveillance. Une des pistes est effectivement l'utilisation de technologies pair à pair. Les gens communiquent directement. Actuellement, le paradoxe, c'est que souvent, la communication n'est pas directe. Par exemple, deux personnes qui veulent s'écrire pourraient s'écrire entre l'ordinateur d'une personne et l'ordinateur de l'autre, réduisant le nombre de gens qui peuvent écouter. C'est seulement ceux qui seraient entre les deux ordinateurs. Or, en pratique, aujourd'hui, ce qui est le plus fréquent, c'est qu'effectivement, quand deux personnes s'écrivent, les messages vont à un intermédiaire, Google ou Facebook, par exemple, et sont lus comme ça. Ça rajoute un intermédiaire, souvent dans un pays étranger en plus, qui peut, au sens légal et au sens technique, écouter. Donc, effectivement, une bonne solution serait de promouvoir le pair à pair. Une des raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas en France, c'est parce que les ministres sont tous ravis de dire du mal de Google. C'est des méchants, c'est américain, ils ne payent pas d'impôts, alors que toutes nos boîtes françaises, à nous, elles, c'est bien connu, elles adorent payer des impôts, elles voudraient en payer plus. Donc, tout cela sont des méchants. Mais en fait, les ministres sont très contents d'avoir cette situation, parce que la seule chose qu'ils connaissent, c'est un monde où il y a un petit nombre d'acteurs, des gros acteurs puissants qu'on connaît, avec qui on peut discuter. Donc Google et Facebook, pour eux, c'est un monde qui correspond à ce qu'ils ont appris à Sciences Po. C'est le truc normal où il y a un petit nombre d'acteurs. Et s'il y avait par contre des millions de citoyens communiquant directement entre eux, les ministres, ils seraient perdus. Ils ne savent pas comment faire un monde comme ça. Donc c'est une des raisons qui font qu'en France, on n'encourage au contraire les communications centralisées et qu'on décourage le pair à pair. L'autre évidente, c'est évidemment le poids de l'industrie du divertissement qui exige qu'on fasse tout pour diaboliser le pair à pair qui permet aux gens de partager les œuvres culturelles. C'est pas bien, ce genre de choses. Mais effectivement, s'il n'y avait pas le lobby de l'industrie du divertissement et s'il n'y avait pas le fait que les ministres se sentent plus à l'aise, enfin, les ministres ou les journalistes aussi se sentent plus à l'aise dans un monde où il y a un petit nombre de gros acteurs centralisés. La caricature là-dessus, ça avait été le communiqué du ministère de l'Intérieur il y a quelques mois qui annonçait « Bernard Cazeneuve convoque les dirigeants d'Internet ». D'abord, le côté « convoque », c'était fort. Mais en plus, c'est le côté « les dirigeants d'Internet ». Parce qu'effectivement, lui, il vit dans un monde où il y a effectivement un petit nombre d'acteurs bien identifiés, les gouvernements, le MEDEF, la FNSEA, les grosses entreprises. Et lui, c'est le monde dans lequel il est habitué à naviguer. Et il essaie de plaquer cette vision sur Internet. Et effectivement, un monde où toutes les communications passent par Google et Facebook, lui convient tout à fait. C'est son mode de pensée. De toute façon, c'est celui dans lequel il est à l'aise.
Je voudrais juste polémiquer sur un mot comme ça, mais j'adore le peer-to-peer et ce que ça permet de faire, parce que justement c'est ouvert. J'adore derrière ce qui s'est développé, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, le bitcoin par exemple. Bon courage. Mais il connaît par cœur donc. Et donc ça permet de se passer de tiers, quoi, d'avoir des relations sans acteurs majeurs, sans banques qui vont faire l'intermédiaire et qui vont pouvoir justement contrôler ce qui se passe. Et donc là, les dernières déclarations, c'est « Regardez, on est sûr que les djihadistes ont utilisé le bitcoin pour financer leurs attentats. » Et donc là, visiblement, après le chiffrement, un autre combat, ça va être de prendre la main sur les crypto-monnaies qui permettent de se passer justement des intermédiaires, des banques, voire des notaires ou d'autres intermédiaires. Et donc ça va être un combat qu'on va certainement voir arriver très très vite, alors même que je ne pense pas que le problème soit là, puisqu'on nous dit que l'État islamique a à peu près 2,5 milliards d'euros en cash. Je ne suis pas certain que le problème, ça soit le bitcoin.
On va prendre une dernière question. Écoutez, sans vouloir jouer la bonne citoyenne obéissante, j'aimerais relayer ce qu'a dit la dame au bout de ma rangée. C'est que vous êtes un peu méchant avec les politiques. C'est dur d'être politique et d'assumer certaines fonctions. Les gens qui ont eu des petites charges politiques dans des petits territoires le savent. Il y a des territoires faciles. Il y a des positions politiques honorables et valorisantes. Il y a beaucoup de petites charges politiques qui sont extrêmement lourdes et peu valorisantes. Non, mais moi, je suis pas du tout une femme de l'obéissance obséquieuse, croyez-moi. Maintenant, excusez-moi, j'aimerais m'exprimer. Ce qu'a dit la dame, c'est les relations entre le politique, l'économique et les forces éducatives. Redisons ici un vieil adage, ne pouvant faire que la loi fût forte. On fit en sorte, hein, ça a plusieurs siècles, que la force fut la loi. Je crois que chaque époque historique s'est confrontée à cette contradiction. Je crois qu'il y a un certain nombre de gens que les vieilles institutions politiques, vous l'avez souligné, qu'on a, ne correspondent plus aux puissances diaboliques d'une certaine technique. Moi, quand j'ai commencé à être prof il y a fort longtemps, je traitais déjà Huxley-Orwell. Je suis étonnée qu'on retrouve actuellement dans les débats des questionnements qui était déjà très fort dans la littérature il y a déjà plusieurs décades. Donc je crois qu'il y a une manière de poser techniquement la question qui ne fait pas émerger actuellement dans la société la question de la dominance de l'argent et de la technique sur le pouvoir politique.
Juste une chose, puisque je peux
défendre les hommes politiques.
Je me suis pas vraiment présenté, effectivement. Donc, je fais une émission qui s'appelle CPU, où on parle du numérique et du rapport des gens qui créent le numérique vis-à-vis des utilisateurs. On a eu en interview récemment Eric Walter, qui était le secrétaire général de la Hadopi. L'idée était justement que l'on voit le processus de décision des lois sur le numérique. Il expliquait très bien justement qu'effectivement, une partie du problème tient tout simplement que ce sont les élus, ce sont des gens qui doivent prendre des décisions sur un spectre très large de propriétés, qu'ils en maîtrisent une, deux plutôt bien, et le reste très légèrement, et qu'en fait, ils sont plus ou moins bien conseillés sur le reste.
Moi, je vais à la fois défendre les hommes politiques et les attaquer, les défendre en sens où, contrairement à ce que croient pas mal d'informaticiens, les hommes politiques ne sont pas ignorants en matière d'informatique, ou plus exactement, c'est pas leur ignorance le problème. Parce qu'effectivement, c'est normal qu'ils soient ignorants, puisqu'ils peuvent pas être compétents dans tous les domaines très techniques et très pointus qui vont discuter au Parlement. Donc c'est tout à fait normal qu'ils votent des lois sur l'informatique sans être informaticien, comme ils votent des lois sur la santé sans être médecin, et ainsi de suite. Tout ça est normal. Et ça, j'ai pas de reproche à leur faire là-dessus. Par contre, je ne pense pas que le problème vienne de leur ignorance. Le problème vienne de leur choix. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand ils ignorent ? On a tous à prendre des décisions dans des domaines qu'on connaît pas. Moi, je suis parent d'élève. J'ai à prendre des décisions sur l'orientation de mes enfants et qui veulent faire des métiers que je connais pas spécialement. Et quelle est la meilleure école dans ce métier. Enfin, tous, on a à prendre des décisions dans des domaines qu'on ne connaît pas, ou quand on est malade, on a des fois à prendre des décisions concernant sa propre santé, alors qu'on n'est pas médecin, qu'on est pourtant le premier concerné. C'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Ben, on demande aux gens qui connaissent. C'est quand même le béaba, le minimum. Et dans la loi renseignement, par exemple, un des trucs frappants, c'est que la loi a été votée sans tenir aucun compte des remarques de tous les experts. Et en général, une loi, elle évolue au cours du processus législatif, elle change, et ce qui est voté n'est pas forcément exactement ce qui a commencé. Et c'est normal, c'est une bonne chose, ça prouve que le processus démocratique marche. Dans le cas de la loi renseignement, elle a été votée finalement telle qu'elle, alors qu'il y avait unanimité des gens qui connaissaient sur certains aspects. Donc je pense que c'est pas uniquement une question d'ignorance des hommes politiques, il y a bien, dans le cas des lois, une volonté délibérée d'ignorer le problème. Et le fait qu'il y ait des gens qui, au poste, je dirais, en bas, par exemple, je ne sais pas, conseiller municipal d'une petite commune ou membre du conseil d'administration d'un lycée, etc., des gens qui font de la politique honnêtement, sans avoir d'intérêt matériel, personnel, et qu'ils font honnêtement et sincèrement, c'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas ça qui excuse les gens qui sont au sommet, qui, eux, ont des avantages matériels considérables que n'a pas l'élu de base et qui devraient avoir des responsabilités supérieures, mais qui n'en tiennent pas tellement compte. Donc l'ignorance des hommes politiques dans les domaines techniques n'est pas un problème. Le fait de ne pas reconnaître cette ignorance et de ne pas accepter de le gérer, c'en est un. Et d'ailleurs, c'est pas spécifique à l'informatique. Un élu typique au Parlement, s'il faisait bien son travail, il faudrait qu'il soit expert en santé, en agriculture, en fiscalité, en relations internationales, en informatique, ce qui est évidemment pas du tout possible. Donc son devoir, ça devrait être au moins de reconnaître son incompétence au sens strict du terme, hein, le fait qu'il ne connaît pas, et de s'appuyer sur des gens qui connaissent, d'essayer de comprendre les enjeux politiques qu'il y a derrière les apparences techniques, etc.
C'était la dernière intervention. Merci Maître Stanley Kless, merci Stéphane Borsmeyer. Je tiens vraiment à remercier les traducteurs en langue des signes, donc je vais les applaudir à leur manière. Merci à vous d'être venus et rendez-vous donc pour le bazar du libre ce week-end. C'est assez dispersé, ça va être un petit peu compliqué pour tout le monde, mais entre nous ça vaut vraiment le coup. C'est dispersé entre Artilect, Mixar Miris, Equito et Étincelle Coworking. Si vous avez un téléphone, cherchez bazardulibre.org, vous aurez toutes les informations. En attendant, je vous remercie tous de votre patience dans ce cas-là, peut-être qu'on va boire un coup dehors puisque les lieux vont fermer. Merci à tous. D'ailleurs, il n'est pas accessible en HTTPS.